Bien, alors je commence pour pas terminer trop tard. La première chose, donc dans les deux dernières catéchèses, nous avons vu ce qu'était l'Église selon le Concile Vatican II, et le Concile commence, il parle de l'Église en parlant du mystère de l'Église, c'est-à-dire pour montrer que l'Église, ce n'est pas une construction humaine, mais c'est vraiment un don de Dieu. Et l'Église a son origine dans le projet de Dieu, dans la Trinité, et c'est Jésus qui l'a instituée. Et cette Église a cette caractéristique, c'est d'être à la fois humaine, c'est-à-dire que c'est composé d'hommes et de femmes, avec leurs qualités, leurs défauts et leurs péchés, et puis aussi divine. Et c'est ça aussi la caractéristique de l'Église, c'est qu'il y a une dimension divine en elle, un peu comme Jésus était à la fois homme et Dieu. Voilà. Et puis on a montré un certain nombre d'images bibliques de la Bible, d'images bibliques que le Concile a repris pour parler de l'Église. Et en particulier, l'Église comme épouse et l'Église comme corps du Christ. Hein, donc pendant longtemps, on va considérer que l'Église, on va beaucoup montrer que l'Église est le corps du Christ. Ça va être une image qui va avoir beaucoup de succès. Et alors là, le Concile Vatican II, après avoir montré le mystère de l'Église, présenté le mystère de l'Église, eh bien, il va continuer à parler de l'Église, mais d'une façon un peu nouvelle, enfin pas nouvelle, mais quelque chose qu'on avait un petit peu oublié, parce que beaucoup de gens, de prêtres, enfin de prédicateurs ou de théologiens présentaient l'Église comme comme une réalité, une société parfaite, avec dedans des prêtres et des évêques, et puis des fidèles qui devaient obéir aux prêtres et aux évêques. Et puis c'était bon. Ça faisait l'affaire, et les gens s'en contentaient. Et là, le Concile Vatican II va aborder l'Église d'une façon nouvelle, puisqu'il va dire que l'Église, c'est en premier lieu le peuple de Dieu. Avant de parler de toute son organisation interne, c'est le peuple de Dieu. Et donc c'est pour ça que j'ai mis en gras sur votre feuille le peuple de Dieu, c'est le chapitre 2 de la Constitution Lumen Gentium sur l'Église. Hein, et puis après, on voit la suite, comment le Concile développe la constitution hiérarchique de l'Église, et surtout l'épiscopat, les laïcs, l'appel à la sainteté, les religieux, la dimension eschatologique de l'Église, et puis enfin la Vierge Marie. Donc, ça sera la suite. Alors, en tout cas, aujourd'hui, nous voyons le peuple de Dieu. Ce n'est pas une réalité nouvelle, encore une fois. Hein, c'est profondément biblique, c'est présent dans la Bible. Et puis, les pères de l'Église en avaient parlé, mais on avait un peu oublié. Alors, le Concile explique que Dieu veut sauver tous les hommes, ça on le savait, mais il ne veut pas les sauver tout seul, individuellement. Il veut les sauver, il ne veut pas les sauver séparément, mais il veut les rassembler en les sauvant. Il veut réaliser une communion et une unité. On se souvient de l'épisode de Babel, construisent une tour, les hommes voulant être aussi forts que Dieu. Et la conséquence, c'est que Dieu dit, ben, désormais, la conséquence de cela, c'est que vous n'arriverez plus à vous comprendre, et donc les nations ne parlent plus la même langue, etc. Et donc c'est la conséquence du péché, de l'orgueil. Et puis, ce que la Pentecôte, au moment de la Pentecôte, ce qui se réalise, c'est exactement l'inverse. C'est les apôtres reçoivent le don du Saint-Esprit, ils parlent une langue que tout le monde comprend. Et un nouveau peuple est en train de se mettre en place. Alors Dieu rassemble de nouveau un peuple. Ceux qui étaient divisés, il les rassemble. Et donc, le Seigneur souhaite sauver les hommes, non pas chacun tout seul. Thérèse d'Avila dira qu'une âme qui s'élève élève le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul dans notre truc en disant, bon, moi, du moment que moi je me sauve, après pour les autres, non. Il veut que tous les hommes soient sauvés et il veut rassembler les hommes. Et donc c'est pour cela que dans l'histoire de l'humanité. Dieu fera des alliances avec les hommes, mais en particulier, il va choisir un peuple, c'est le peuple d'Israël, qu'il va prendre comme son peuple, peuple de Dieu, comme son peuple, et qu'il va progressivement éduquer. Mais en leur disant bien, donc c'est pour ça que dans la Bible, on voit des évolutions hein, dans la découverte de Dieu, de ce que Dieu attend, mais en disant bien qu'un jour viendra où il y aura une alliance qui sera parfaite entre Dieu et les hommes, et cette alliance-là, eh bien, un nouveau peuple va naître, un peuple qui sera en communion avec Dieu et qui va pouvoir vivre son cheminement. Et c'est Jésus lui-même qui va réussir, qui va réaliser ce nouveau peuple. Alors c'est pour ça que je vous ai mis la citation de Jérémie, du prophète Jérémie, qui dit « Voici venir les jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma foi au fond de leur être, je l'écrirai sur leur cœur, alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Tous me connaîtront, du plus petit au plus grand, dit le Seigneur. » Et c'est ce nouveau peuple que le Seigneur rassemble, qu'il institue à travers Jésus-Christ. C'est Jésus qui réalise cette nouvelle alliance que l'on dit à chaque messe, hein, quand le prêtre consacre le vin, cette alliance nouvelle éternelle. C'est cette alliance qui fait qu'on constitue un nouveau peuple par le don du Saint-Esprit. Donc c'est le mystère de la Pentecôte. Et puis ce peuple, c'est écrit aussi sur vos feuilles, ce peuple est envoyé au monde entier comme lumière du monde et celle de la terre. Et ce peuple donc a une mission particulière, lumière du monde et celle de la terre. Alors c'est une très très belle, introduction que l'Église nous propose en parlant d'elle-même, qu'elle dit l'Église c'est d'abord le peuple de Dieu. Et comment on entre dans ce peuple de Dieu? Eh bien, par la foi en Jésus et le baptême, et la grâce du baptême. C'est cela, et c'est le grand sacrement qui nous fait entrer dans la vie divine et qui nous fait membres de ce peuple, parce que nous unit à Jésus. Voilà, nous sommes, donc c'est la grâce du baptême qui nous fait être membres de ce peuple et qui nous donne une responsabilité. Parce que, alors c'était une très belle chose que le Concile nous montre, que finalement l'Église c'est d'abord le peuple de Dieu, mais en même temps, et ça je ne suis pas complètement convaincu que les baptisés, nous ayons tous réalisé cela, en même temps ça nous donne une responsabilité nouvelle, parce qu'avant on faisait reposer sur le clergé, sur les religieux, un certain nombre d'aspects de la vie de l'Église, en se disant c'est eux qui s'en occupent, nous on vit notre vie quotidienne comme on peut, on ne fait pas de mal, on ne fait pas trop de mal, on essaie d'obéir à ce que dit l'Église, mais point la ligne. Or, désormais, une responsabilité repose, une responsabilité forte repose sur l'ensemble des baptisés. Hein, et ça, je pense que le Concile l'a dit, mais on ne l'a pas encore complètement intégré dans la vie de nos communautés. Alors, le baptême nous donne de devenir prêtre, prophète et roi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première catéchèse de l'année dernière, j'ai parlé de cette dimension-là. Nous étions une communauté paroissiale, mais chaque baptisé, nous étions à la fois prêtre, prophète et roi. Trois dimensions. Bon, je ne vais pas les développer, mais nous avons donc trois fonctions importantes à vivre en tant que baptisé et en tant qu'Église. Et ces fonctions, encore une fois, on ne peut pas les déléguer, on ne peut pas se dire c'est d'autres qui vont les vivre à notre place. Et c'est pour ça que donc le paragraphe 10 de la Constitution parle du sacerdoce commun des fidèles, essayant de développer un peu le rôle des fidèles. Et puis il parle bien sûr à ce moment-là du sacerdoce commun des fidèles et du sacerdoce qu'on appelle ministériel, c'est-à-dire du rôle du prêtre. Le rôle des prêtres et des évêques dans ce contexte en disant que ces deux sacerdoces ne sont pas identiques, c'est pas la même chose, il y a une différence essentielle, je cite le concile, non seulement de degré, mais ils sont ordonnés l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'ils s'articulent l'un l'autre et que l'un est au service de l'autre. Le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce des fidèles, pour aider les fidèles à bien le vivre, à bien vivre leur sacerdoce commun. Donc voilà, et ça je passe parce qu'on va revenir pour la prochaine rencontre sur la constitution hiérarchique de l'Église. Ensuite, le concile, donc il montre la responsabilité, il montre par exemple quelque chose qui peut-être n'est pas évident au premier abord, c'est que le sacerdoce des fidèles, la grâce baptismale, donne une responsabilité des fidèles, même dans la vie des sacrements, dans la célébration des sacrements. C'est-à-dire que par les sacrements, c'est des moyens qui sont donnés aux fidèles, mais en même temps, ils ont leur rôle à jouer. Et par exemple, un prêtre ne peut pas, enfin, doit éviter au maximum de célébrer la messe tout seul. Il va toujours avoir des baptisés avec lui pour célébrer la messe, parce que, voilà, on a besoin les uns des autres, et que même si, sans prêtre, on ne peut pas avoir de messe, il n'empêche que le prêtre, normalement, célèbre toujours avec les fidèles. Le caractère, parce que c'est nécessaire pour la vie du sacrement et parce que le but du sacrement, c'est vraiment de pouvoir donner aux fidèles une croissance, de pouvoir donner aux fidèles une vie, une vraie vie chrétienne, une croissance et de croître. Le but de la vie des sacrements et de la vie liturgique, c'est vraiment de contribuer à la progression des fidèles dans la vie chrétienne et à devenir des saints. Bon, alors saint, ça veut dire ressembler à Dieu, à ressembler de plus en plus à Dieu pour pouvoir mettre Dieu dans la vie de notre monde. Voilà. Ensuite, dans le paragraphe 12, le concile parle du sens de la foi et des charismes du peuple des chrétiens. Alors, le sens de la foi, c'est que les fidèles, ils ont, par la grâce de leur baptême, ils ont une véritable relation à Dieu qui fait que sur certaines choses, ils saisissent le contenu de la foi au-delà de toutes les explications et toutes les catéchèses qu'on peut leur donner. C'est-à-dire qu'ils saisissent des choses. Par exemple, la virginité de la Vierge Marie, depuis l'origine de l'Église, ça n'a jamais été défini par le dogme. Ça fait partie des rares points qui n'a jamais été défini par un dogme d'Église où on a dit « oui, il faut croire ça ». Parce que c'était tous les fidèles croyaient en ça. Hein, donc, et maintenant, c'est considéré à l'équivalent d'un dogme. Hein, c'est considéré comme étant quelque chose, un article de foi, comme on dit. Hein, mais pour dire. Et dans d'autres domaines, par exemple l'Assomption de la Vierge Marie, le pape, quand il a défini l'Assomption de la Vierge Marie comme étant un dogme, il s'est appuyé sur quoi? Il s'est appuyé sur le sens des fidèles, parce que il a fait une enquête, il a demandé aux évêques, renseignez-vous dans vos communautés, et il a vu que dans la quasi-totalité des communautés, voire la totalité, eh bien, on croyait que la Vierge Marie était montée avec son corps au ciel. Et donc, s'appuyant sur l'Écriture et sur le sens de la foi des fidèles, eh bien, il a défini comme étant une vérité de foi, un dogme. Hein? Mais donc, c'est le sens des fidèles. C'est le sens de la foi des fidèles qui fait que qui est premier. Et l'infaillibilité du pape, qui a été définie donc au Concile Vatican I, est basée là-dessus. Le pape, quand il est infaillible, quand il se prononce sur des domaines de foi où il a tenu compte de la foi de tous les fidèles, et il se dit, ben voilà, la grande majorité des fidèles catholiques pensent ça. Donc je le définis définitivement comme étant un article de la foi. Voilà. Donc c'est pour ça que la faillibilité pontificale, il ne faut pas lui mettre n'importe quoi sur le dos. Voilà. Et puis, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce sont les charismes. Ce que dit le Concile, c'est que c'est un aspect aussi important, c'est que les fidèles, par la grâce de leur baptême, reçoivent du Saint-Esprit des dons de Dieu, des charismes qu'il leur faut faire fructifier. Ils ont donc une responsabilité. Et ainsi, on a vu, mais déjà depuis bien avant le Concile, bien évidemment, de tout temps, on a vu des laïcs baptisés, simplement, mariés, célibataires, peu importe, qui se lançaient dans des projets ou qui recevaient des charismes spéciaux pour le bien de l'Église. Et donc, ainsi, il y a eu des mouvements qui sont nés, des mouvements de spiritualité, des mouvements de charité, etc., des mouvements d'évangélisation, plein de réalités diverses qui vont se répandre dans l'Église parce que c'est des charismes que les chrétiens vont recevoir qui vont faire fructifier. Et que les pasteurs donc devront simplement, eux, leur rôle, ça va être de discerner ce qui est bon et de retenir ce qui est bon. De discerner, de voir si, il n'y a pas, parce qu'on peut s'égarer aussi dans notre tête. Donc, il va, ces charismes, alors il ne faut pas croire trop vite que nous n'avons pas de charisme. Dieu, le Saint-Esprit, répand dans nos cœurs sa grâce. Et donc, nous pouvons tous avoir des charismes. Ce n'est pas lié à notre sainteté personnelle. C'est les dons de Dieu qui nous sont donnés par la grâce du baptême. Voilà. Ensuite, le Concile montre que l'Église, le peuple de Dieu, l'Église, est appelée à être une et universelle. Alors, une, on comprend le problème de la division des chrétiens. C'est un problème grave que le Concile aborde, et de sa dimension universelle, alors l'Église est appelée à se diffuser dans le monde entier, et ce qui est assez marquant, c'est que quand on est baptisé catholique, vous êtes baptisé ici, mais si vous allez en Chine, dans une communauté catholique, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Vous êtes dans votre communauté. Vous appartenez à l'Église et vous êtes toujours chez vous. À la différence, par exemple, d'un prêtre qui l'est aussi, bien sûr, chez lui, parce qu'il est baptisé, tout ça, mais qui, dans son exercice de la prêtrise, est lié à un évêque. Et donc, par exemple, moi, prêtre, si je vais en Chine, normalement, je ne vais pas me mettre à confesser comme ça, en arrivant en Chine, sans demander des autorisations à l'évêque. Tandis que le chrétien, lui, il est chez lui partout où il va. Et c'est, nous sommes dans une grande famille universelle. Et c'est toujours cette idée d'un peuple universel qui dépasse les frontières des pays et que Dieu rassemble. Et cette unité, ce peuple universel, il est en même temps, l'Église respecte la diversité des cultures. Des cultures et ne cherche pas à transformer les cultures, mais purifie les cultures et retient là aussi ce qui est bon. Et c'est comme ça que se sont développées, par exemple, les différentes liturgies. La liturgie orientale s'est développée parce que c'est une culture différente de la liturgie occidentale, etc. Il y a une véritable diversité qui est une richesse pour l'Église et que l'Église veut garder dans l'unité. Et puis, bien sûr, il y a une diversité entre les baptisés. Ils sont rassemblés, mais ils sont rassemblés dans un peuple, mais ils ne sont pas faits pour devenir tous pareils. Ils sont chacun uniques, chacun nous sommes uniques, et l'Église souhaite à respecter cette diversité parce qu'elle considère que c'est une richesse. Voilà, et ça a une autre conséquence, cette universalité de l'Église, la conséquence c'est le partage fraternel. C'est qu'entre les différentes églises du monde, on vit une entraide fraternelle. C'est bien ce que fait beaucoup d'organismes, des organismes d'église, la Caritas ou l'AED, l'aide à l'église en détresse, etc. Voilà. Ensuite, le Concile va montrer que dans l'église, il y a différents degrés, dans ce peuple de Dieu, il y a différents degrés. Il y a ceux qui sont en pleine communion entre eux, au sein de l'église, et puis ensuite, il y a différents degrés de lien avec ce peuple. Alors le premier, bien sûr, c'est les fidèles catholiques. Alors j'ai mis tout le passage sur la feuille, vous le lirez parce qu'on n'a pas le temps, mais donc il y a les fidèles catholiques que le Concile dit tourne en premier lieu sa pensée vers lui. Voilà. Et puis ensuite, il y a les autres chrétiens qui ne sont pas catholiques, ils vont dire qu'on a beaucoup de choses en commun et donc on se reconnaît mutuellement, une véritable fraternité. Et enfin, il y a les non-chrétiens. Et dans les non-chrétiens, le concile... Alors vous voyez, il y a comme des cercles concentriques dans l'Église. Dans les non-chrétiens, en premier lieu, il va parler du peuple juif. Le peuple de la première alliance, Dieu ne rejette rien de ses dons ni de son appel, donc il reste toujours le peuple élu et aimé de Dieu. Ensuite, les musulmans. Pourquoi ? Parce que les musulmans, ils adorent et aiment un Dieu unique et miséricordieux. Et puis ensuite, les autres croyants, d'autres religions. Ensuite, les agnostiques et les athées. Tous ceux qui cherchent avec Dieu d'une façon authentique. Et puis, il termine en disant, bien souvent, malheureusement, les hommes, trompés par le démon, se sont égarés dans leur raisonnement. C'est pour cela que l'Église souhaite évangéliser et annoncer la bonne nouvelle pour que tous découvrent la vérité et la beauté de l'amour de Dieu. Voilà, c'est l'invitation à la mission. L'invitation à la mission. Et puis, le dernier point, le dernier paragraphe, c'est le caractère missionnaire de l'Église. C'est-à-dire qu'en disant cela, eh bien, l'Église nous dit qu'elle souhaite annoncer au monde entier l'Évangile, mais que ce n'est pas l'affaire des spécialistes, prêtres, religieux, mais c'est l'affaire de tous les baptisés. C'est l'affaire de tous les chrétiens. C'est dans la grâce du baptême qu'il y a la grâce de la mission, et que c'est une affaire que tout chrétien doit porter. Et donc, on peut chacun se dire cette parole de saint Paul, que vous avez aussi sur votre feuille, « Malheur à moi si je ne prêchais pas l'Évangile. » Et ça, voilà, on voit qu'il y a l'Église est peuple de Dieu, ce qui est beau que le Concile nous ait rappelé ça, mais qu'il y a une véritable responsabilité qui repose sur l'ensemble des chrétiens. Et donc, nous sommes appelés à être chrétiens, à faire une vraie communauté, à devenir des saints et aussi à évangéliser. Voilà, merci.